Le journal, Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des promesses, il est temps de passer à la caisse. Le budget de l'État est présenté ce matin au Conseil des ministres. Budget déficitaire, mais le président compte sur la croissance prévue à 6% cette année pour l'équilibrer et il ne lésine pas sur les dépenses, Carole Ferry.
Effectivement, le budget de l'État va augmenter de plus de 11 milliards d'euros. Parmi les mieux servis, l'armée avec 1,7 milliard d'euros supplémentaires. L'éducation, 1,7 milliard de plus également. Une hausse qui inclut la revalorisation du salaire des enseignants en janvier prochain. Enfin, l'intérieur va progresser de 1,5 milliard, dont un tiers à destination des mesures du Beauvau de la sécurité. Emmanuel Macron a par ailleurs promis plus d'un milliard à Marseille, un plan d'investissement pour 2030, un revenu d'engagement pour les jeunes. Beaucoup de promesses dont le financement inquiète le député LR Gilles Carrez, ancien président de la commission des finances à l'Assemblée nationale.
Ce qui va se passer, c'est que dans le budget 2022, ne seront inscrites qu'une toute petite partie de ces dépenses supplémentaires. Emmanuel Macron a sorti le carnet de chèques. Ça n'est plus un carnet de chèques sanitaire lié au Covid, c'est devenu un carnet de chèques électoral. En faisant des promesses qui ne va pas financer lui-même, mais qui devra être financé ensuite.
Des dépenses supplémentaires qui inquiètent d'autant plus qu'aucune mesure d'économie n'est prévue pour compenser.
Carole Ferry, avant le Conseil des ministres, il y aura aussi aujourd'hui un Conseil de défense sur le pass sanitaire et son éventuelle adaptation dans chaque région en fonction du taux d'incidence. Certains territoires lèvent déjà leurs restrictions. En Charente-Maritime, le masque n'est plus obligatoire en extérieur à compter d'aujourd'hui. Idem dans le centre-ville de Périgueux en Dordogne. C'est historique et c'est français. Deux start-up ont réussi à lever plus $1 milliard en une journée. D'un côté, Miracle qui crée des places de marché virtuelles, 550 millions de dollars levés hier. De l'autre, Sorare qui vend des objets de collection numérique. Son record hier, 700 millions de dollars. Son fondateur, Nicolas Julia, explique ce qui a fait mouche auprès des investisseurs à Emmanuel Duteil.
On a un environnement qui mûrit autour de nous et on a vu des succès à grande échelle. Je pense que le deuxième point, c'est qu'il y a aussi l'ambition. On n'a plus peur, en fait, de vouloir créer des leaders mondiaux, de sortir de nos frontières et d'avoir cette ambition mondiale depuis le premier jour. On fait plus de 20% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis de notre côté et la France nous représente un peu plus de 10% de nos revenus. Et après, je pense qu'il y a un troisième point qui est aussi le contexte de marché. Avec ces banques centrales qui quand même alimentent un petit peu le système avec de l'argent qui finit par redescendre, notamment dans le capital risque.
Nicolas Julia, le fondateur de Sorare, au micro d'Emmanuel Duteil. L'affaire des sous-marins australiens, l'Union européenne aura tardé à réagir, mais elle s'indigne désormais, elle aussi, de l'annulation du contrat français avec l'Australie.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Alors l'UE prend donc fait et cause pour la France, verbalement du moins. Y aura-t-il des mesures à l'encontre des États-Unis ou de l'Australie ?
Oui, mais plutôt des mesures symboliques. Envers l'Australie d'abord, depuis 3 ans, Canberra négocie un accord de libre-échange avec Bruxelles, notamment pour exporter plus de produits agricoles. La prochaine session de discussion est prévue le mois prochain. Elle pourrait être reportée. De toute façon, à elle seule, la France peut bloquer un éventuel accord car il nécessite l'unanimité des États membres. Second sujet, là ce sont les Américains qui sont visés. Une rencontre importante prévue à Pittsburgh entre Américains et Européens sur les nouvelles technologies et le commerce va sûrement être décalée. Il faut marquer le coup symboliquement, c'est un peu comme un rappel d'ambassadeur, dit une source française. C'est la Commission européenne qui doit prendre la décision formelle.
Cette crise, Isabelle, montre aussi à l'Europe qu'elle est finalement très seule.
Oui, c'était frappant d'entendre hier un ministre allemand parler d'un signal d'alarme qui pose la question de la souveraineté de l'Europe. Du miel pour les oreilles françaises. Après Kaboul, après cet accord AUKUS, il faut qu'on avance sur la question de l'autonomie stratégique, clame aussi la Commission européenne. C'est le bon côté de la claque reçue par la France et indirectement par l'Europe. Elle dissipe une partie des illusions. Les arguments français sur la défense européenne sont pris plus au sérieux. Alors, le constat, c'est déjà ça, mais maintenant, il va falloir voir si les Européens arrive à poser des actes.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Aux États-Unis, Joe Biden assure qu'il ne veut pas d'une nouvelle guerre froide. Il l'a dit hier à la tribune des Nations Unies. Son ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, doit rencontrer le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, aujourd'hui. Il devrait pouvoir échanger ce soir également avec Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, lors d'une réunion avec d'autres pays membres.
Et en France, c'est Nicolas Sarkozy qui s'est exprimé hier sur ce sujet des sous-marins. L'ancien président salue la réaction froide d'Emmanuel Macron. Écoutez.
La manière dont les États-Unis ont agi est inadmissible. On n'agit pas comme ça entre amis et avec des alliés. Cette attitude n'était pas acceptable et la France et le président ont eu raison de réagir avec fermeté. Et à partir de cette situation inadmissible, il faut reposer la question. Que veulent-ils faire des alliances avec l'Europe en général et avec la France en particulier? Voulez-vous toujours être alliés avec nous? Partageons-nous toujours les mêmes valeurs?
Voilà, Nicolas Sarkozy, Europe 1, il est 8h06, l'Australie victime d'un rare séisme ce matin, 5,9 sur l'échelle ouverte de Richter. Pas de victimes ou de dégâts importants, mais une secousse surprenante pour les habitants de Melbourne, la deuxième ville du pays.
À Paris, ce grave accident hier soir, vers 21h, une voiture a percuté 4 personnes sur les Champs-Élysées, 4 piétons, 3 sont en urgence absolue. Et puis à Marseille, nouvelle fusillade hier soir, 1 mort, 2 blessés dans le 14e arrondissement.
Voilà, c'est la série d'Europe 1 cette semaine, tous les matins à 8h, l'élection législative allemande. Elle a lieu dimanche et il y a un parti qui est plutôt absent du débat cette année, Fanny, c'est l'AFD.
Un parti d'extrême droite qui s'est radicalisé ces dernières années. Ce week-end, ses partisans ont même salué l'assassinat d'un étudiant de 20 ans abattu par un homme à qui il rappelait simplement les règles de port du masque dans une station-service. Hélène Kohl, si l'AFD s'est à ce point radicalisé, c'est que ses thèmes de prédilection, comme l'immigration par exemple, ne font finalement plus recette.
Dans la liste des préoccupations des Allemands pour cette campagne, l'immigration arrive en 7e position. La moitié des réfugiés de 2015 travaillent en CDI, 98% des enfants sont scolarisés et chaque week-end, comme ce jeune Syrien, ils arrivent par car entier de toute l'Allemagne pour contribuer à la reconstruction des zones inondées mi-juillet.
L'Allemagne nous a tant donné. Nous sommes intégrés maintenant. Nous voulons juste aider.
Privé de ce thème, le parti AFD a choisi la radicalisation pour se faire entendre. Il a endossé le discours des complotistes pendant la pandémie contre le vaccin, contre les gestes barrières. Il assume aussi son rapprochement avec les néo-nazis dont il reprend la rhétorique, appelant à débarrasser l'Allemagne de ses parasites ou de ses traîtres comme Merkel, à les traquer, à les chasser.
Nous allons les traquer. Et nous allons retrouver notre peuple.
À l'Est, ce discours fait mouche dans toutes les classes d'âge, mais ce sont des régions dépeuplées qui n'ont pas beaucoup de poids au niveau national. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Jean-Paul, mon homme de Rio, plus de 2 semaines après la mort de Bebel, un livre hommage paraît aujourd'hui.
Et il est signé Carlos Sotomayor, sa dernière compagne, publication aux éditions Flammarion, qui fait polémique. La famille Belmondo l'estime indécent. L'actrice brésilienne, pour sa part, assume totalement Céline Géraud.
Une idylle au début des années 80, des retrouvailles au printemps 2020. Carlos Sotomayor a partagé la vie de Bebel à 2 reprises, 2 parenthèses enchantées, et elle aurait tant aimé qu'il puisse lire le livre.
J'avais commencé ce livre il y a près de 4 ans. L'été dernier, Jean-Paul a lu les premières 35 pages du livre, qu'il a trouvé très drôle. Je pense que c'est un livre génial et Jean-Paul lui-même, il avait aimé le début et je suis sûre qu'il aurait aimé le reste.
Jean-Paul, mon homme de Rio, c'est 227 pages où elle déroule les 2 chapitres de leur histoire d'amour. 83, les années folles, les fêtes jusqu'au bout de la nuit avec un Bebel jaloux qui planque un magnétophone pour la surveiller. Et puis 2020, les retrouvailles à Grasse en plein confinement. La voilà tour à tour infirmière, cuisinière, amoureuse et joyeuse quand l'été arrive. Les sorties, les petits plaisirs retrouvés, un camembert pané au four à Mougins, une escale en Italie, un verre de limoncello et du Sinatra. Bebel et Carlos, c'était ça leur Dolce Vita.
Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.